J'ai des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Et c'est en me faisant cette réflexion que parallèlement, je repensais à ma mère, à mes grands-mères, à ces figures de femmes que j'avais sous les yeux tous les jours, celles qui m'entourent, qui m'ont bercée en me contant leur vie. C'est en songeant à leurs combats, leurs envies, leurs idées, leurs projets, que je me suis dit que de nombreuses femmes de nos territoires devaient être mises en valeur. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et j'aimerais vous les présenter. Bienvenue chez les femmes de chez moi.
Elle a des sources d'inspiration, des femmes célèbres et célébrées, des femmes à la capitale ou à l'étranger. Vous savez, elle le dit si bien, des actrices, des artistes, des journalistes, des militantes, des activistes, des autrices, des sportives. Leur quotidien fait qu'elles sont des femmes d'exception et elle a bien raison. 40 portraits nous l'ont prouvé depuis avril 2019. À l'occasion de cette 41e et dernière édition des Femmes de chez moi, enfin de chez elle, c'est une petite surprise que nous vous réservons. Elle a accepté, non sans avoir passé des semaines, voire des mois à réfléchir, d'être à la place de l'interviewée. Margot Labarthe est la 41e invitée des Femmes de chez moi, la journaliste, féministe, militante et activiste, fondatrice du festival féministe EBE, qui a cartonné tout début septembre à Mont-de-Marsan, nous fait l'honneur de passer de l'autre côté du micro. Je suis Emmanuelle P2R, 3e femme de chez elle, et j'ai le plaisir, la joie et le trac de lui rendre la monnaie de sa pièce.
Margot Matin. Margot Matin. Margot Matin. Margot
Matin. Alors, bonjour Margot. Oh my god. Bonjour Margot.
Salut Mani.
Ça va bien?
Ouais.
Elle a les larmes aux yeux, je précise. Et c'était juste une intro. Margot, raconte-nous ce son, même s'il est très familier des auditeurices de Radio MDM.
Alors ce son, c'est le générique de Margot Matin, la matinale que j'ai animée pendant 2 ans, je crois, sur les ondes de Radio MDM, de 2019 à 2021. Donc oui, c'est ça, ça fait à peu près 2 ans, 2 saisons en tout cas. C'est un générique qu'on a enregistré un matin, un petit peu à l'arrache, mais j'avais très envie que mes 3 collègues chéris qui veulent bien prêter leur voix, parce que les techniciens, c'est hors de question qu'on les entende au micro. Donc Anthony, Jeannot et Marie ont accepté bien volontiers de chanter, de faire cette petite chorale improvisée un matin comme ça. Et voilà, et ça m'a accompagnée pendant 2 ans. Ça a rythmé ma vie, en fait, parce que c'était le signal que voilà, j'étais sur les ondes. Et donc, il fallait que j'ai des choses à raconter aussi. Après, l'animation, c'était pas la partie qui me plaisait le plus, mais ça a quand même été une expérience très chouette pendant 2 ans de pouvoir accompagner les gens aussi et puis d'avoir aussi les retours des auditeuristes, comme tu l'as si bien dit, de Radio MDM, sur des morceaux, sur des interviews, créer vraiment des choses aussi. Il y avait une matinale que j'avais organisée autour du Grenelle des violences, je crois que c'était fin 2019 ça. Donc c'était le début des Margot Matin et c'était un peu une folle aventure. Il y avait 5 invités qui étaient venus parler, dont l'ancienne bâtonnière Valérie Boileau et Rose Lucie, qui est déléguée de la préfète à l'égalité femmes-hommes, entre autres. Et puis il y a eu la matinale verte, qu'on a eu très le plaisir d'animer ensemble. Voilà, ça fait partie des choses très chouettes et puis il y en a eu plein d'autres.
Alors tu aurais pu choisir aussi le générique d'une autre de tes productions audio, à savoir les femmes de chez moi, enfin les femmes de chez toi.
Enfin, chez nous.
Les femmes de chez nous. Une proposition qui est très marquée par ton ADN et qui fête aujourd'hui son 41e épisode. Pour l'occasion, je l'ai dit en introduction, tu as accepté de te livrer. Tu es celle qui est dans le fauteuil aujourd'hui de l'interviewée, qui va se raconter un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, comment tu te sens?
Pas du tout dans un fauteuil, je suis assise par terre dans cette cabane déjà. je suis à la fois émue et amusée qu'on fasse ça, parce que tu me l'avais dit à la fin de notre enregistrement, presque comme une punition.
Mais parce que
tu verras, je te le ferai. Tu seras là, quand t'arrêteras les femmes de chez moi, je t'intervieverai à mon tour. Donc ouais, je suis contente qu'on le fasse. Ça va être chouette.
Alors, on va beaucoup parler de radio, d'engagement, de militantisme, de russe. Privet.
Privet.
Privet, pardon. Mais tout ça n'arrive que parce qu'un 5 septembre, il y a 27 ans, tu faisais une entrée fracassante dans la vie de Marie et Didier depuis Mont-de-Marsan. Une landaise pur jus qui ressemblait à quoi, du coup, quand elle était toute petite? Raconte-nous.
Bah, ce que je peux raconter, c'est surtout des choses qu'on m'a racontées. Mm-hmm. Parce qu'après, moi, j'ai des souvenirs de moments en famille, surtout, et de choses très chouettes. J'ai beaucoup couru, très vite, en fait. Ça, c'est les choses qu'on retient de moi. C'est que je courais, je prenais les virages en levant une jambe pour contrepoids. Voilà. Et j'étais... grande sœur à 2 ans et demi, un truc comme ça, et j'étais très contente d'être grande sœur aussi. Et voilà.
Et tu vivais où, à la campagne, à Mont-de-Marsan?
Non, à Mont-de-Marsan. Moi, j'ai passé les premières années de ma vie à Saint-Martin-d'Aunay, mais je n'ai qu'un vague souvenir de cette période. Et après, ça a été Mont-de-Marsan très vite, ouais.
Ok. Donc, Montoise.
Pur jus.
Ton amour de l'Italie, je voulais savoir s'il venait de ton enfance. Est-ce que c'est lié à des souvenirs ou une époque? Est-ce que tu y as habité? Tu y es passé?
J'ai toujours dit que je vivrais 3 ans de ma vie en Italie, donc pas encore vécu. mon amour d'Italie, je pense qu'il vient de mon premier voyage scolaire, le premier, le seul et l'unique voyage scolaire d'ailleurs que j'ai fait, où notre prof de latin nous avait amené pour fêter les 10 ans, je crois, des voyages en Italie, des classes de latin, en Sicile. Donc on a fait tout le tour de la Sicile, du littoral sicilien, c'était assez incroyable. Et ouais, après, j'adore la Méditerranée et tous les pays méditerranéens. Je trouve que tout est beau, ça sent bon, il y a plein de choses trop cool à manger. Et les gens sont incroyables. Et l'Italie, en termes d'architecture, c'est trop beau. Même quand on n'a pas d'argent en Italie, il y a des choses belles à voir dans la rue pour tout le monde, donc c'est chouette.
On est toujours avec la petite fille que tu étais. Elle répondait quoi à la question « Moi, quand je serai grande, je serai... »
Alors. Longtemps archéologue. Mmh. Et une fois chanteuse aussi. Mais je me rappelle avoir été assez déçue quand ma mère m'a expliqué qu'il fallait pas forcément faire d'études pour être chanteuse. Donc je me suis dit, ouais, enfin, on verra, je garde ça.
T'avais un talent particulier?
Absolument pas. Et je n'en ai toujours pas. Pour la chanson, j'en ai plein d'autres, mais pour la chanson, j'en ai pas. Et ouais, archéologue, parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire et on a beaucoup regardé de documentaires sur l'archéologie et la préhistoire et tout ça avec mon père. Et c'est aussi en entendant mon père raconter un jour que lui, il aurait adoré être journaliste. Mmh. Et que faute de moyens, bah, il avait pas pu le faire, ni l'envisager en fait, vraiment. Que je me suis dit, bah ouais, mais en fait, je crois bien que journaliste, ça me botterait assez comme taf aussi. En plus, je pense, j'imaginais pas déjà à l'époque toutes les facettes que ça couvrait, le journalisme. Et donc, j'y suis passée d'abord par, je crois, journaliste sportive, parce que j'ai été assez sportive. Dans mon enfance, j'aurais pu le dire aussi, tu vois. Journaliste sportive, après journaliste mode, parce que l'influence de ma mère oblige aussi, elle a une carrière dans la mode et les vêtements qui est assez fascinante, et elle a un vrai don pour ça. Je pense qu'elle nous a donné à ma sœur et moi aussi ce goût pour la mode et pour les choses belles. Et finalement, je me suis dit non, le journalisme de la en mode, non, je crois qu'il y a trop de choses dans cet univers-là qui me correspondent pas. Je l'ai gardé dans d'autres autrement, la mode. Et finalement, ouais, journaliste. Bon, ça s'est fait plutôt par hasard d'arriver à Radio MDM, mais je crois que ce journalisme aussi local, en fait, ça me plaît bien. Ça couvre plein de choses et ça permet de mettre en valeur plein de gens qui ne sont pas mis sans nous, quoi. Mmh. Donc, voilà.
Alors, du coup, tu t'es embarquée dans des études littéraires avec un bac L obtenu avec mention, s'il vous plaît. ensuite, on a retrouvé Margot Labarthe curieuse de tout, puisque t'es partie en sociologie, et c'est finalement avec une mention que tu as encore décroché une licence de langues étrangères appliquées. Du coup, là, la question me brûle les lèvres. Margot, pourquoi le russe?
Oui, je comprends que ça te brûle les lèvres, parce que ça brûle à plein de gens aussi. Je sais pas si c'est français, ça. parce que j'ai fait allemand au collège et au lycée en seconde langue, et que je sais pas, j'ai pas pris le temps m'intéressais suffisamment à cette langue, je pense, et donc j'ai jamais vraiment accroché avec, ce qui est déplorable, mais bon, c'est comme ça. Mmh. Et donc repartir dans des études de langue, c'était une évidence parce que c'est un peu ça qui m'a fait aussi, entre autres, hein, mais arrêter de la socio, c'est que ça me manquait beaucoup ce côté langue vivante et un peu de voyage en restant même dans une salle de cours. et donc le russe était dans les quatre langues grand débutant que proposait l'université Bordeaux-Montaigne. Donc j'avais quand même demandé japonais et arabe aussi. Et c'est en russe qu'on m'a répondu en premier. Et du coup j'ai dit ok, bingo, ça avait l'air très chouette. Nouvel alphabet, nouvelle culture. C'était très bien. C'était 3 années très bien. Bon, c'est dommage parce que le russe de Mont-de-Marsan, aujourd'hui, ça ne sert pas des masses.
On peut finir l'interview en russe, hein, si ça veut, y a aucun problème.
Здравствуйте, Emmanuel. Voilà. Tchou. Ça voulait juste dire bonjour, Manu.
Pour financer tes études, et finalement aussi pour te construire, on va te retrouver, Margot, factrice, vendeuse de fromage dans les Alpes, serveuse, vendeuse, femme de ménage. En fait, j'ai un peu l'impression que t'étais Florence Aubenas avant Florence Aubenas.
Mais ça va pas la tête. Non, mais c'était vraiment par nécessité. Je pense que j'envisageais même pas ça comme ça, mais oui, ça m'a appris, ça m'a apporté, je pense, plein de choses et une manière de voir et d'envisager. Et les gens que je rencontre et les situations qui se présentent à moi, je sais pas, un bagage, une expérience supplémentaire quoi, qui me permet peut-être d'avoir de l'empathie pour certaines personnes, certaines situations et qui c'est sûr influe par contre sur mon travail et la manière dont j'appréhende les gens et les choses quoi.
Ça t'a appris la vie en fait en parallèle de tes études.
Ouais, exactement.
Les études, justement, elle vient de les reprendre. Comme si ça ne lui suffisait pas d'entendre de la bouche de Benoît Bouscarel, ex-rédacteur en chef de France Culture, que l'envie et la motivation sont des sources qui semblent inépuisables chez elle. Non, Margot veut se prouver des choses, asseoir ses compétences, mériter le numéro 136002 de sa carte de presse. Alors avant de parler de sa nouvelle formation entamée en septembre, demandons-lui comment elle a découvert le féminisme, qui l'a rendue curieuse de ce combat, si on peut l'appeler ainsi.
Ça c'est... ardu comme question. un combat, oui, je pense qu'aujourd'hui c'est, même si c'est pas un mot qui fait envie, je pense que c'est un combat. Et je pense qu'on peut aussi combattre dans la joie. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, avec l'asso, mais on a dit qu'on en parlera plus tard. Attends, la question c'est quoi? C'est qu'est-ce qui m'a fait découvrir le féminisme?
Ouais. Et qu'est-ce qui t'a rendu curieuse du féminisme?
Mais alors j'ai pas d'éléments déclencheurs très précis et je sais que j'ai jamais voulu faire les trucs qu'on assignait un peu au genre féminin, tu vois, quand j'étais petite, comme par exemple jouer au papa à la maman ou ce genre de trucs. Je trouvais ça vraiment très très chiant. Et ensuite très vite je me suis intéressée à ce système qui est plein d'inégalités en fait. Je pense que mes parents ont dû me sensibiliser à ça aussi. En première, avec une de mes meilleures amies, on avait fait notre sujet de TPE sur la place des femmes dans la publicité, qui déjà à l'époque nous rendait complètement ouf en fait, parce que c'était juste révoltant de se rendre compte. Et puis plus tu décortiques en fait, plus tu te rends compte à quel point c'est aberrant et à quel point c'est partout. Mmh. Et je pense que ça m'a jamais vraiment quitté d'essayer de comprendre d'où viennent les inégalités. Quel est le facteur commun de toutes les inégalités, parce que voilà, c'est structurel, c'est systémique, et donc le racisme, le classisme, le sexisme, le validisme, enfin toutes ces formes de discrimination qu'on retrouve dans le système dans lequel on évolue, elles sont toutes liées en fait. Et donc voilà, moi c'est ça qui m'intéresse dans le féminisme, c'est que c'est une lutte pour tous, c'est pas uniquement un combat pour les femmes, et que voilà, tout est tellement lié que si on commence à déconstruire un point, on va nécessairement déconstruire les autres.
Et du coup, c'est ce que tu vas étudier en cours. Qu'est-ce que tu vas faire en fait? Tu peux nous parler de tes études?
Alors, je vais faire un master de recherche en études sur le genre. C'est des études qui sont tournées vers le féminisme, les théories féministes, l'histoire des féminismes, Donc il y a vraiment plein de choses. On va parler donc de l'histoire des féminismes, des masculinités, de la virilité, du colonialisme et des néocolonialismes. On va parler du féminisme dans la culture générale aussi, dans la pop culture même. Et donc moi, mes recherches vont particulièrement porter sur la territorialisation du féminisme. Donc comment ce courant qui est, comme la plupart des courants intellectuels et sociaux, concentré d'abord dans des grandes villes, comme Paris par exemple, Bordeaux, Toulouse, pour faire plus près de chez nous, comment ça peut arriver justement en ruralité ou dans des petites ou moyennes agglomérations comme Mont-de-Marsan, et quel impact ça peut avoir aussi sur ces villes-là et sur les populations qui y habitent.
Et tout ça en russe.
I wish, but no.
Est-ce que tu dirais que les femmes de chez toi, c'est ton premier acte militant sur ce sujet ?
Très certainement, oui. Très certainement. J'ai mis vraiment un moment avant d'oser le proposer à la radio, parce qu'à la radio, moi, je suis la petite de la bande et la seule fille, enfin, jusqu'à ce que Marie arrive en 2018, je crois. Donc, il m'a fallu un peu de courage, et une personne qui m'a été très précieuse aussi, et qui est passée en stage, alors que c'est quand même très drôle, c'était la seule personne diplômée d'une école de journalisme, mais qui était stagiaire chez nous, qui s'appelle Jennifer Biabatantou, qui a été, ouais, qui m'a déjà beaucoup apporté pour la partie journalistique, qui m'a donné, je pense, mes bases les plus saines en journalisme, pour la forme, tu vois, et des trucs qui me servent encore aujourd'hui, quoi. Et c'est elle qui m'a poussée, qui m'a dit, allez, maintenant tu vas leur proposer. C'est super ton idée. Ça fait des mois que tu m'en parles, donc maintenant, c'est l'heure. C'est ton moment. Et voilà. Et donc, je pense en plus que c'est mon premier acte militant, parce que c'est à force d'écouter aussi des podcasts qui traitaient de sujets féministes, que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était tout le temps les mêmes meufs qu'on entendait parler. Essentiellement des meufs basées à la capitale. J'ai rien contre les parisiennes, hein. Mais c'est juste que je me sentais pas forcément représentée dans ce que j'entendais. Et c'était très souvent des femmes qui venaient de milieux privilégiés, très souvent des femmes bourgeoises blanches. Et du coup, je trouvais qu'il manquait quelque chose. Et j'avais conscience aussi des chiffres par rapport aux représentations des femmes dans les médias. Et de me dire que même si les femmes dans les médias avaient cette si petite place, qui quand même grandissait, évoluait, c'était toujours les mêmes femmes qu'on entendait. Et du coup, je me suis dit, il faut vraiment mettre en lumière et donner la parole à ces femmes qui sont ici, moi, que je croise tous les jours, en fait, qui ont toutes des histoires incroyables, des projets qu'on ne soupçonne même pas parce qu'on n'en parle pas. Et donc, ben voilà, je me suis dit, je vais tâcher, moi, de faire mon petit micro, de donner la parole à toutes ces grandes dames que j'ai pu croiser, dont tu fais partie.
Et effectivement, toi, t'as envie d'en être, parce que tu suivais tout ça, tu m'as raconté que tu suivais ça sur Twitter, tu t'es inscrite pour suivre le mouvement MeToo.
Ouais. J'ai recréé un compte Twitter parce que je trouvais ça fascinant. Tu vois, je me suis dit, mais putain, mais c'est incroyable que d'un coup, il y a autant de femmes. Je m'interroge encore sur sur l'étincelle, quoi. Parce que il y avait déjà eu un premier MeToo qui avait pas vraiment pris. Je sais plus comment elle s'appelle, celle qui a posté la première fois MeToo sur Twitter. Et il a fallu attendre, voilà, 2017 pour que ça explose vraiment. Et puis voilà, on a bien vu que ça avait servi à tout le monde, parce qu'il y a eu effectivement Hollywood et le monde du cinéma, mais il y a eu dans la musique après aussi, dans le sport, il y a eu le MeToo inceste qui est absolument ignoble. Enfin, tout est horrible de toute manière, mais c'est tellement bien que enfin cette libération de la parole arrive, quoi. Il fallait vraiment que ça arrive. Et j'ai une phrase de Nora Nour, du coup, qui est une militante féministe qui m'est très chère, qui, pour le premier atelier qu'on a organisé avec elle à Mont-de-Marsan, nous avait dit, il faut que vous vous rendiez compte que ce qui se passe ici, en ce moment, enfin pas ici, mais en ce moment et à travers le monde, c'est historique. Jamais, au même moment, autant de femmes n'ont pris la parole en même temps pour dénoncer bah, toutes les formes de maltraitance qui peuvent arriver aux femmes et aux personnes minorisées au cours d'une vie, quoi. Et je trouve que c'est assez fou, en fait, de se rendre compte de cette dimension historique et d'en prendre conscience et de se dire, OK, on est dedans, nous. On le fait aussi, quoi. Ça, c'est assez ouf.
Et du coup, t'es même allée, toi, au-delà, en créant une association féministe inclusive dans les Landes. Donc, finalement, tu entres aussi dans l'histoire landaise. Est-ce que tu t'attendais à ce moment-là, à l'écho que rencontre aujourd'hui Team Sama?
Non, parce que j'étais un peu frileuse au début, j'avoue. Moi, j'ai cherché pendant longtemps, j'ai tapé sur Google asso féministe Landes, asso féministe Landes. Et il y avait pas grand-chose. Et je pense que c'est un peu, enfin tu vois, c'est dans la continuité des femmes de chez moi, tout c'est un peu créé en même temps et arrivé un peu en même temps dans ma tête, quoi. Je dis, si on n'a pas quelque chose ici aussi pour que les gens prennent conscience, touchent vraiment et accès à ce que c'est le féminisme et le féminisme d'aujourd'hui aussi, ça pourra pas avancer, quoi. Donc je me suis dit, ok, on va faire ça. J'ai rencontré Salima Sensou à l'époque aussi, parce qu'elle avait un projet d'université populaire des parents et elle voulait le tourner vers l'orientation, et particulièrement l'orientation des jeunes femmes en quartier prioritaire, dans les quartiers prioritaires. Et donc on s'est dit qu'on allait créer ça ensemble, d'une part parce qu'on avait deux cercles très différents, deux publics qu'on touchait et qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et que dans l'inclusivité, l'idée de les mixer, c'était hyper pertinent. Et quand on a lancé, quand on a fait la soirée de l'AG constitutive, on s'était dit qu'on allait envoyer 2-3 textos à droite à gauche, mais des gens de confiance pour lancer l'assaut, qui fassent partie du bureau et tout ça. Et finalement, de 3-4 textos envoyés, on s'est retrouvé à presque une trentaine de femmes réunies un soir dans la librairie Caractère. Et puis ça allait, je pense, de 12 ans à 75 ans, quoi, les âges. Donc c'était assez fascinant. Et puis tout le monde on a interrogé un peu tout le monde sur éventuellement les attentes et puis leur rapport à ce courant qui est le féminisme, ce qu'elles ont pensé, etc. Et du coup, c'était assez enrichissant comme soirée. Et après, il y a eu la soirée de lancement, on était, ouais, je sais pas, quelque chose comme 70, je pense, dans le café musique. Et du coup, ça booste, quoi, parce qu'on avait lancé quelques événements, mais c'était les débuts, quoi. Et de voir qu'on donnait déjà envie à des gens de venir voir et qu'une asso féministe, ça ne rebutait pas tout le monde, c'était assez cool.
Je me rappelle qu'il y avait même des hommes.
Il y avait même des hommes, c'est fou, ça.
Incroyable. Team Sama, ce n'est pas qu'un festival. Depuis sa création, l'asso a donné plusieurs ateliers sur l'estime de soi, avec notamment leur complice féministe photographe Nora Nour. Des moments très forts, stimulants, qui poussent à aller de l'avant. Et c'est ce que Margot Labarthe fait très bien, à chaque fois, en visant toujours plus haut. On se demande souvent comment elle fait pour oser tout ça. À quoi ça tient? Tiens, demandons-lui.
Alors, mes 10 ans de théâtre, je sais pas, parce que je me suis bien rendu compte en arrivant à la radio, même à la fac, que j'avais perdu la confiance que ça avait pu m'apporter et l'aisance oratoire aussi qui aurait pu en découler. Le fait de rencontrer Nora m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi sur ces points-là, et pas que Nora, hein, mais Nora a fait beaucoup, mais des personnes comme toi aussi. Je fais mes tours sur ce sujet parce que j'ai pleuré, mais...
Des compliments
Mais oui, et puis le monde associatif, en fait, c'est assez merveilleux parce que tu imagines des choses collectivement et tu vois des projets aboutir, quoi. Tu offres des possibilités à des gens de créer des choses. Tu peux les mettre en valeur, mettre en valeur des personnes que tu admires, dont tu respectes le travail. Tu peux tout faire, en fait, parce que à partir du moment où, déjà, je pense que c'est créé, pensé, construit de manière collective, ça permet de faire beaucoup plus de choses et beaucoup plus grand. Et en fait, quand tu commences à faire quelque chose et que tu te rends compte que c'est possible, bah tu te dis, mais en fait, je peux faire peut-être encore plus. Et du coup, pourquoi arrêter? Tu vois.
Et d'ailleurs, tu réfléchis déjà avec tes complices de Team Sama à l'édition 2 du festival EB. EB. T'es pas fatiguée après 2 jours d'ateliers, de concerts, de conférences, de vide-dressing, etc. Ça t'a pas usé, tu repars, t'es pompé l'up.
Ouais, parce que ça booste aussi. On a eu tellement de... En fait, ça s'est fait tellement naturellement. On a été tellement bien entourés, tellement bien accompagnés, et on a eu des retours tellement beaux et chaleureux, et que bien sûr on est reparti déjà pour bosser la prog de l'année prochaine. On n'a pas le temps de s'arrêter en fait, parce qu'il faut booker tous les gens qu'on aimerait faire venir, et il va falloir faire 2-3 dossiers de subvention, je pense, parce que l'argent est quand même le nerf de la guerre, ne l'oublions pas. Et que même si les gens ont contribué, notamment avec le financement participatif qu'on a fait, et nous ont bien soutenus financièrement, ça c'était très chouette. Là, cette année, on aimerait bien éviter de solliciter trop nos adhérents et adhérentes, parce que voilà, on l'a fait une fois, faudrait pas déconner et le refaire. Mais ouais, donc il y a les dossiers de subvention qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie aussi, donc il faut qu'on s'y mette vite pour pas être prise de court à la fin de l'année et faire 20 000 dossiers d'un coup. Possible.
Et toute cette implication, tout ce travail avec ce festival notamment, c'est un peu un acte politique, puisque il s'agit de s'impliquer pour les autres, pour la cité, c'est ce que veut dire le mot politique. Est-ce que du coup ça te donne des idées?
Alors oui, politique, oui, ça je revendique évidemment, pas politique politicienne, toujours le politique parce qu'il faut faire bouger les choses et parce que tout est politique en fait, mais non, pas très peu pour moi, je laisse ça, il y en a d'autres qui le font très bien et qui sont de très bonnes interlocutrices pour nous aussi, de vraies femmes politiques, mais je leur laisse cette place-là.
Je m'en veux. Je voulais poser la question.
Mais on en reparle, hein. Peut-être que dans 10 ans, je te dirai autre chose quand je serai présidente. Mais...
Les femmes, Margot, t'inspirent, on l'a compris. Tu m'as déjà parlé de beaucoup de visages féminins. Marie-Lise Sambla, qui est une chercheuse qui étudie sur le féminisme à l'échelle locale. Nora Nour, d'autres autrices, j'allais dire auteurs. Ouh là 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 là. Il y a beaucoup de femmes, en tout cas, voilà, qui te donnent envie d'aller toujours plus loin sur ces sujets-là. Je voulais savoir s'il y avait des hommes qui décuplaient aussi ton énergie, ta curiosité, et qui te portaient à travers toutes les actions que tu mènes.
De manière très bateau, j'ai envie de te parler de mon père. De toute manière, je l'ai déjà dit, mais lui, je pense que c'est grâce à mon père aussi que je suis journaliste d'une part, et que j'ai une certaine curiosité aussi et une envie d'apprendre certaine et constante. Ça me fait juste penser en fait au livre de Rosemary Lagrave, qui est une sociologue et qui est la cofondatrice du master en études sur le genre de l'EHESS, qui est venue à la librairie Caractère et que j'ai eu la chance du coup d'interviewer à cette occasion-là. Et dans son livre, elle explique que, en fait, c'est son histoire en tant que transfuge de classe. Elle vient d'une classe sociale plutôt basse, même si c'est très très moche de dire ça comme ça. Et elle explique que ses parents ont vécu un déclassement à partir du moment où son père a été reconnu invalide parce qu'il était malade et qu'ils ont dû quitter Paris. Mais elle explique que son père a eu un bagage culturel énorme parce qu'il a été formé, alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il était dans les ordres pour devenir prêtre en fait, donc il a eu une éducation religieuse importante et donc il avait un bagage culturel assez conséquent, et que elle, en tant que transfuge de classe, ça lui a beaucoup servi. Et je pense que ça a beaucoup résonné en moi, parce que moi aussi je viens d'une classe sociale plutôt modeste, mes parents n'ont pas fait d'études, et pourtant mon père est extrêmement cultivé, et il l'a fait ça tout seul en fait. C'est pas dans sa famille qu'on lui a appris des choses, c'est pas l'école non plus parce qu'il a arrêté très tôt, mais pourtant il a une culture qui est immense, et je pense que ça c'est une vraie chance pour moi d'avoir eu mon père, et qu'il ait fait ces démarches lui tout seul d'apprendre et de chercher constamment, parce que ben voilà, moi ça m'a beaucoup apporté. Voilà.
Donc ton papa.
Ouais.
Et est-ce que c'est un homme ou une femme que tu as choisi pour ton interlude musical?
Ah oui, c'est Björk.
C'est une femme.
Oui, c'est Björk. Et pour l'anecdote, c'est un morceau que ma mère écoutait beaucoup quand elle était enceinte de moi, et qu'on aime beaucoup écouter toutes les deux, puis avec ma petite sœur et en famille même, mais on a tendance à danser très fort sur Björk. Since I... met you.
Vous êtes bien sur Radio MDM, vous écoutez le 41e épisode des Femmes de chez moi. Enfin, de chez elle, l'intervieweuse interviewée, rappelez-vous. À elle, Margot Labarthe, d'expérimenter le difficile exercice des trois souvenirs. Le premier qu'elle a accepté de partager avec nous est assez douloureux. Elle l'avait déjà raconté de façon émouvante dans Le Courage des Oiseaux, podcast publié sur Arte Radio. Il revient sur le terrible accident de son père Didier, survenu le 21 juin 2012, qu'il avait alors plongé dans le coma pendant à peu près 10 jours.
Et en fait, on a passé 10 jours. Donc ma mère d'abord, elle allait à Bordeaux tous les jours, faisait les allers-retours. Toujours entourée. Ça, c'est un truc qui était assez hallucinant, c'est qu'il y a eu des gens autour de nous, mais... Enfin, c'est là où tu te rends compte à quel point c'est précieux, et la famille, et l'amitié, même si les amis, c'est une autre famille. Mais... Ouais, c'était fou, quoi. Nous, à la maison, on n'a jamais été toute seule avec Emma, c'est pareil, enfin... C'était assez incroyable. Et donc, voilà, ma mère, elle rentrait, elle faisait un petit journal de bord tous les jours, elle envoyait des textos à tous les gens qui était autour de nous et qui s'inquiétait de l'état de santé de mon père, et donc elle tenait tout le monde au courant, et moi aussi. Et voilà, ça a été, elle a été vraiment incroyable, parce qu'elle a vraiment porté tout le monde, quoi. Elle a interdit, on n'avait pas le droit de, on avait le droit de pleurer, on n'avait pas le droit de laisser entendre qu'il pourrait arriver un truc de pire, que la situation pourrait se dégrader. Elle a réussi à empêcher ma grand-mère d'avoir des pensées négatives. Il faut savoir que mon père, c'est le premier fils de ma grand-mère, donc elle a été très, très, très touchée, bon, comme nous tous, mais tu vois, c'est le truc d'une maman, quoi. Et elle a été hyper combative aussi, parce que ma mère, elle lui a vraiment aussi, je pense, insufflé beaucoup de force. Et donc, au bout de 10 jours, le jour où j'ai eu mes résultats du bac, parce que c'était l'année du bac, il me reste, et j'ai dû passer une épreuve, mon épreuve d'oral d'anglais, alors que mon père était dans le coma, c'était pas le truc le plus évident que j'ai eu à faire. Mais donc il s'est réveillé et ma mère est rentrée très contente, m'a dit bon ben voilà, parce qu'elle voulait pas qu'on aille le voir tant qu'il n'était pas réveillé, parce que c'était très dur en fait. Donc elle me dit tu peux aller lui annoncer tes résultats du bac, aller voir quelqu'un en réa, c'est y aller tout seul ou à deux max, passer dans un sas, mettre une blouse là, une charlotte, enfin tout, tu vois. Et moi, je suis arrivée face à une personne. C'était très compliqué, du coup, de voir cette personne qui était pour toi intouchable et à qui pouvait rien arriver dans cet état-là, quoi. Mon père, il avait la moitié du visage paralysé. Du coup, il avait tout rasé. Parce que j'avais pas vu mon père rasé depuis, je sais pas, que j'avais 4 ans, tu vois. Ouais, et puis il était, enfin, tu vois, avec une blouse d'hôpital, avec un œil à moitié fermé, enfin. C'était très très dur, je n'ai jamais autant tremblé de ma vie. Mais je lui annonce que j'ai effectivement eu mon bac. Et il lève les yeux vers moi, il me regarde, il me dit « Ça va, fais pas trop la baline quand même. » Et là, je me suis dit « Ok, le mec est là, on l'a complètement perdu. » Et voilà. Et du coup, ça a été après des longs mois pour arriver à ce que ça revienne. Mais on nous a dit en fait aussi à Pellegrin qu'il avait été très bien entouré et que ça l'avait aussi aidé à revenir vite à lui. Tu vois, il y a eu vraiment plein de choses. Enfin, il y a eu des gens, des amis à nous qui sont venus de partout en fait le voir, qui ont fait le déplacement et qui on arrivait à 8 parfois dans la chambre. Enfin, tu vois. Et ouais, ils nous ont dit ça, ouais, que le fait qu'il ait été autant entouré, ça l'avait certainement aidé à revenir plus vite à lui, quoi. Après, ça a été très vite, hein, les blagues, tout ça, c'est revenu assez rapidement. Et voilà, il est redevenu la même personne, à part qu'il est plus facilement fatigable, et qu'il a une oreille en moins. Enfin, pas physiquement, mais il entend que d'une oreille, parce que du coup, il a une fracture de l'arcade sourcilière au rocher, donc c'est l'os qui est derrière l'oreille. Et quand l'os, quand le rocher s'est ressoudé, et ça a pincé le nerf.
Ah mince.
Et donc, voilà, fait qu'il n'entend plus. Et qu'il a un petit trou encore sur la tête de quand il a eu une sonde. Et voilà, sinon...
Ce que j'entends quand même de ce souvenir, c'est effectivement un moment difficile, mais finalement, c'est énormément le partage, le fait d'être entouré qui ressort de cet événement marquant.
Beaucoup d'amour, ouais.
Après l'amour, du coup, tu vas nous parler d'une chose un peu énigmatique. Un jour, tu as cru que tu avais une grande sœur. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Bah, tu l'as un peu évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai fait du théâtre pendant 10 ans. C'est ma mère qui m'avait amené voir une pièce de théâtre. C'était les ateliers de l'Amicale Laïque Montoise, avec Solène et Pascal, qui ont été deux profs absolument fantastiques. Bah, je suis restée 10 ans, donc c'était vraiment des gens très cool. Et donc, elle m'amène voir un spectacle, et c'était Alice au Pays des Merveilles. Et là, genre, ça m'a retourné la tête, quoi. Je me suis dit, attends, mais moi, je veux faire ça. Mais j'avais même pas 6 ans. Et donc, elle m'a dit, OK, ben, on t'inscrira l'année prochaine. Donc, j'ai commencé le théâtre, ouais, un peu avant mes 6 ans. Et à la fin du premier spectacle qu'on fait, chaque année, si tu veux, t'as tous les groupes qui venaient saluer. Parce qu'il y avait, je crois, 5 ou 6 groupes de, en fonction des âges qui montaient sur scène. Et donc, donc nous, on était le premier groupe, on va saluer, hein, ça enchaîne. Et on descendait après dans le public le temps que les autres saluent, tu vois. Et à la fin, le dernier groupe, une certaine Maëlys Labarthe. Et là, je comprends pas, en fait. Je me dis, mais pourquoi... Mais c'est qui cette grande qui a le même nom de famille que moi et tout? Je sais pas pourquoi ça fait ça dans ma tête. Et j'étais persuadée après, en fait, que... Bah, je sais pas, qu'on avait... J'étais bébé, tu vois. Enfin, j'avais 6 ans, mais... Mais je sais pas, tu vois, c'était la première fois, je pense, que je rencontrais, en tout cas, que je savais qu'il y avait quelqu'un qui avait le même nom de famille que moi. Et après, moi, j'avais plein de copains et de copines qui avaient des grands frères et des grandes sœurs. Moi, j'en avais pas, même si j'étais très heureuse d'avoir une petite sœur. Mais tu sais, il y a ce truc de la relation, de ce truc de protection, de d'admiration des grands frères et des grandes sœurs. Et ouais, je crois que j'avais hyper envie de ça aussi. Et que du coup, ouais, voilà, j'étais persuadée. Enfin, j'avais envie que ce soit ma grande sœur, quoi.
Et t'es allée lui parler?
Non. Non, mais j'ai beaucoup pleuré dans mon lit d'imaginer ça et tout. Et bon, ça m'est passé, quoi. Mais par contre, là où je pense que ça m'a marqué, et c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, c'est que moi, j'ai beaucoup d'amis et je suis souvent attirée, pas physiquement, hein, mais par ouais, je sais pas comment dire ça, mais je vais plus souvent vers des personnes qui sont plus âgées que moi. J'ai beaucoup d'amis qui sont plus âgés que moi, alors pas forcément de 15 ans, tu vois, mais ouais, je sais pas si ça vient de là. C'est une espèce de théorie psychanalytique auto-analyse qui n'a rien d'avéré, mais je me dis, ouais, que ça vient certainement de là, quoi, d'être validé par des personnes plus âgées et d'avoir ce truc aussi, cette relation de protection. J'ai eu beaucoup de grandes sœurs, je mets des guillemets, ce n'est pas du tout radiophonique, de grandes sœurs au collège, ouais, dans ses amitiés avec les personnes plus âgées que moi, voilà.
Son troisième souvenir n'est pas bien vieux, mais il la marquera pendant longtemps, c'est certain. Margot nous embarque au Parc Lacaze, où s'est tenue les 4 et 5 septembre la toute première édition du festival féministe EB. Il ressemblait à l'image qu'elle a du féminisme, un juste condensé de ce qu'elle a touché du doigt à la lecture de 3 ouvrages majeurs s'il en est. Féminisme de Nora Boisouni, Le féminisme pour les 99% de Cindy Arruzza, Titi Batacharia et Nancy Fraser, Sorcière de Mona Chollet. Si vous avez lu tout ça, eh ben c'est comme si vous y étiez. Elle-même le dit.
Et là, en fait, en lisant ces 3 livres, je me suis dit, ok, alors déjà, ça, je pense que j'ai un condensé de ce à quoi je veux que ressemble mon féminisme. C'est-à-dire un féminisme qui est inclusif, qui pense vraiment aux autres. Et je me suis dit, mais attends, parce que du coup, à quel moment, moi, Nora Boisouni, si j'ai envie de la rencontrer, de parler avec elle de son livre, je peux le faire. Ça voudrait dire qu'il faut que je prenne un train, que j'aille à Paris, que je prenne un hôtel, que j'aille voir une... Enfin, que je trouve une rencontre, que la date de la rencontre colle avec mon emploi du temps.
Qui n'est pas le Covid ?
Oh, ouais. Ça, on n'y pensait pas à l'époque. Et voilà, donc ça demandait du temps, de l'argent, beaucoup d'organisation, des choses que je n'avais pas. Et j'ai toujours pas l'organisation, ni le temps, ni l'argent d'ailleurs. C'est drôle, ça. Et donc, je me suis dit, bah, pour que ce soit plus simple, en fait, il faut que moi, j'organise sa venue.
Bah oui, c'est simple.
Ouais, je sais, ça paraît un peu paradoxal, peut-être, comme ça. Mais si tu veux, genre, quelques semaines avant cet été-là, j'avais organisé la projection du documentaire Female Pleasure. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte que là, moi, toute seule, comme une grande, avec des partenaires essentiels comme la Libre et Caractère, l'association Libre et Social Club, et le Royal, évidemment, pour la projection du documentaire, ben, j'avais pu réunir 100 personnes un soir de semaine à Mont-de-Marsan, avec une entrée payante, même si l'entrée était qu'à 5 euros, autour d'un sujet qui est politique, parce que c'est quand même le droit à disposer de son corps et puis de la sexualité qu'on choisit. Et je me suis dit, mais en fait, c'est possible, quoi. On peut faire des choses ici. Et donc, voilà, je me suis dit, ok, ben, pour faire venir Nora Boisouni et toutes les autres personnes que j'aurais envie de rencontrer, bah, je vais créer un truc ici. Voilà, facile. Donc, entre-temps, on a créé Team Sama, dont on parlait tout à l'heure. Et entre-temps, avant cette fameuse première édition de 4 et 5 septembre 2021, il y a eu le Covid.
Voilà. Il y a eu deux annulations.
Ouais. Deux annulations, l'annulation de l'expo aussi, l'annulation de d'autres rencontres, de tout un cycle de cinéma, enfin de bon bref. Mais voilà, donc ça a été dur moralement, psychologiquement, tu vois, de vraiment t'arracher pour un truc, de mettre tout en place et au dernier moment que on vient de te faucher tout ton travail. Ça a été vraiment compliqué à encaisser. Mais bon, on s'est pas laissé abattre. Et avec une super équipe, on était quand même 4, hein.
Ah ouais, c'est beaucoup.
Non, mais voilà, c'est ça, c'est avec Camille, Morgane et Marie, on a bien bossé, quoi. Il y avait Fatima et Salima qui étaient là sur la première année et puis qui ont quitté le bureau. Et donc, on était vraiment toutes les 4 après, là, cette année pour porter ce festival. Alors on a eu la chance d'avoir une trentaine, voire une quarantaine de bénévoles pendant les deux jours du festival et puis même dès le vendredi pour la mise en place, parce qu'un vide dressing de cette ampleur, ça se prépare pas en un claquement de doigts. Et puis pour faire tourner tout un festival comme ça pendant deux jours avec autant d'activités et de propositions, bah il fallait du monde, quoi. Et c'est là où c'est chouette, très beau, très touchant, et c'est grâce à toutes ces personnes aussi que ça s'est passé sans accroc, quoi. Mmh. Pour une première édition, j'ai trouvé ça juste fascinant, en fait. Je crois que j'ai pas encore complètement analysé le truc et peut-être qu'en décembre je pleurerai encore parce que on l'a fait, mais ouais, vraiment d'avoir réussi à créer ça, tu vois, ce truc de fédérer autant de gens autour de ce projet, ça c'est un truc qui me remplit de joie, et d'avoir créé autant de rencontres aussi, ça fait vraiment partie des choses qui reviennent beaucoup. Les gens me disent on a fait des rencontres incroyables. Donc il y a évidemment toute la partie militante qui a été apportée par les deux Nora, donc Nora Nour et Nora Boisouni, qui ont été nos deux marraines. Ça c'est aussi un cadeau merveilleux pour une première édition d'avoir des marraines comme ces deux femmes là. Et puis il y avait aussi Abby Beach, et franchement c'est incroyable d'avoir eu cette personne à Mont-de-Marsan pour une première édition d'un festival. Enfin, peut-être que les gens se rendent pas forcément compte de qui c'est et tout ça, mais bon, bref, dans quelques années, quand ils la verront partout, ils comprendront vraiment que c'était fou de l'avoir ici. Et puis Rose Palukwatoka aussi, qui est une personne assez incroyable, qui est très jeune et qui avait déjà beaucoup de choses à nous apprendre, quoi. Et voilà, et conjuguer tout ça avec des artisanes fantastiques du coin, toutes les femmes avec qui on travaille au quotidien, que ce soit Audrey Loyal, Cécile Fauconnier, Lydie Brocard, Nelly Martin. Enfin, c'est des femmes avec qui on travaille à l'année et qu'on avait aussi envie de mettre en avant ici, et d'avoir réussi à mixer les publics, des femmes qui venaient par exemple pour un petit cours de danse ou un cours de yoga, et d'avoir pu les amener à rencontrer ou découvrir des créatrices, et puis après aller peut-être tendre l'oreille sur une conférence qui a priori leur aurait peut-être pas parlé s'il y avait eu que cette conférence là, mais voilà. Et puis on avait évidemment nos 4 food trucks qui sont venus, c'était la cerise la cerise sur le gâteau, tu vois. Donc ouais, c'est un très très beau souvenir. Je suis tellement heureuse de pouvoir dire que c'est un souvenir.
Quoi, ouais, que c'est passé.
Ça y est, on l'a fait. On l'a fait et c'est fou.
Et vous avez fait quelque chose aussi au service d'un territoire, enfin d'un département. C'est quand même super chouette d'avoir su créer ça quand même pour les Landes. Les Landes, justement, qui s'écrivent au féminin pluriel. Mm-hmm. Est-ce que c'est pour ça que tu aimes autant ce département? Mais l'aimes-tu pour d'autres raisons? Qu'est-ce qui fait que tu es autant attachée aux Landes? Tu poses souvent cette question à tes invités. Ça m'intéresse de savoir ce qui te plaît ici.
Moi, les Landes, j'ai longtemps voulu les fuir. Parce que il y a ce truc quand t'es jeune, je pense, de vouloir partir de là où tu viens. J'en parlais ce matin avec une femme qui me disait mais c'est sain aussi de partir de là où on vient. Et j'y suis revenue un peu malgré moi. Et finalement, avec cet œil de journaliste, j'ai découvert plein de choses, plein de gens et je continue à en découvrir, à découvrir tout ce qui s'y passe en fait. Et après, au-delà de des gens et des toutes les initiatives qui sont prises sur ce territoire pour le faire grandir, je pense qu'il y a plein de choses encore à y apporter. Et c'est à ça qu'on s'applique aussi avec Team Sama. Et j'ai envie aussi que plein de gens le découvrent en fait, parce que c'est tellement beau en fait les Landes. Il y a tellement de paysages différents, c'est incroyable. Et pourtant, et c'est encore tellement inconnu. Mm. Tu vois là sur les jours de rentrée, il a fallu que je précise où c'était les Landes quoi. Pourtant c'est le deuxième plus grand département de France je pense. Et c'est juste idéalement situé. Enfin je sais pas. En fait j'ai pas envie de, à part en Italie, pas forcément envie de vivre ailleurs. C'est faux. J'ai très envie d'aller à Marseille, à Paris, plein d'autres endroits. Rennes c'est une super ville aussi. Mais je crois en tout cas que pour l'instant je suis très bien dans les Landes et il y a plein de choses à y faire et c'est ça qui me plaît vraiment.
Et tu y as fait beaucoup de choses. Enfin, tu commences à le connaître par cœur parce que tu l'as aussi servi en tant que correspondante de notre grand quotidien régional Sud-Ouest où on s'est d'ailleurs rencontrées toutes les deux. T'as servi Sud-Ouest pendant à peu près 2 ans sur Saint-Sevé. C'est des bons souvenirs.
De bosser pour Sud-Ouest. Ouais, c'était très chouette. Mm-hmm. Ben là, c'est pareil. Hein, ça m'a fait découvrir ce coin de Saint-Sevé dans lequel, enfin, cette ville de Saint-Sevé dans laquelle j'ai habité pendant 5 ans. Sous un angle tout à fait différent quoi. Et c'est là où c'est intéressant parce que il y a des associations, bah tu sais qu'elles existent, mais comme elles sont tout près et que c'est pas forcément ton centre d'intérêt premier, tu fais pas la démarche d'aller rencontrer et voir ce qui s'y passe. Et moi c'est ça que ça m'a permis Sud-Ouest, d'aller rencontrer plein de gens que j'avais pu côtoyer, croiser occasionnellement, d'aller creuser un peu quoi, d'aller de savoir pourquoi ils étaient là et ce que c'était leur but vraiment et je crois que c'est vraiment aussi la beauté du métier de journaliste.
Mmh. C'est vrai. Sans s'en rendre compte, Margot, nous sommes déjà à la 27e question de cette interview. Et on n'a pas développé ton envie de faire Les Modes. On n'a pas parlé de ces profs d'anglais, de maths, de littérature et même de russe qui ont su te porter. On n'a pas encore développé tes légendaires vide dressing, mais en fait, il faudrait à peu près 300 questions au bas mot pour faire le tour de ton univers.
J'exagère un peu.
Ouais. Donc ça m'intéresse quand même du coup de te questionner sur la petite fille qui est toujours au fond de toi. Est-ce qu'elle est fière de la femme qu'elle est devenue? Est-ce qu'elle est contente d'elle, de s'être donné les moyens et de se les donner encore et encore, d'être cap, d'aller toujours plus haut?
Je me rends compte à quel point vraiment ça pouvait être terrible cette question.
Elle est dure. Hein.
Désolée à toutes. J'ai pas envie de dire, je sais pas si je peux dire fière, parce que à chaque fois que j'entendais tes femmes en face de moi qui me disaient ça, je disais, mais dis-le, bon sang, tu as de quoi être fière.
Complimente-toi.
Ouais, non, mais c'est surtout que je suis très heureuse. En fait, je pense que c'est des trajectoires que j'avais pas du tout envisagées, ni forcément trop conscientisées, donc c'est chouette. C'est chouette, je suis surtout très heureuse aussi d'être hyper bien entourée, parce qu'il y a quand même des gens aussi qui m'accompagnent et qui m'autorisent du coup à me dire, mais si tu peux le faire. Et c'est toujours bien de se l'entendre dire, même si on au fond on a envie de réaliser des choses, si à côté en plus il y a des gens qui te mettent le petit coup de pied aux fesses pour te dire, allez, arrête de te poser des questions maintenant, do it. Ouais, donc je suis surtout très contente et je suis contente d'être revenue ici et de contribuer à l'apport de choses nouvelles ici et de contribuer aussi à une déconstruction certaine des gens. Au moins de les accompagner. Après, je sais que le travail se fait de manière individuelle, mais ouais, quand on peut commencer des choses collectivement, c'est toujours bien pour impulser. Mmh. Voilà, donc là je pense que je m'égare, mais oui, je suis contente.
Bon, ce sera presque le dernier mot de la fin. Le dernier mot de la fin, c'est moi qui l'ai du coup, pour parler au nom des 40 femmes qui ont eu la chance d'être mises à l'honneur dans les femmes de chez toi.
43.
Ah, d'où 43?
Bah parce qu'il y a des épisodes en duo. Il y a 3 épisodes où elles sont 2.
D'accord. On garde ou je dois recommencer là? Alors, le dernier mot me revient. Je voulais parler au nom des 40 et quelques femmes qui ont eu la chance d'être mises à l'honneur dans les fans de chez toi, pour te dire merci, parce que tu as su mettre en lumière des bouts d'elles, des bouts de nous, avec ton oreille si attentive, cette voix si particulière, cette plume bien sentie et ton cœur battant. Tu fais beaucoup de choses pour le territoire, pour nous, pour les femmes et aussi pour les hommes qui peuvent aussi s'identifier et comprendre un peu comment on fonctionne. Du coup, un immense merci et longue vie à tes projets fédérateurs et très importants pour notre territoire.
Merci Mamie.
Merci à toi. Merci à Margot Labarre qu'il fallait bien mettre à contribution pour le dérush et à vous tous pour l'écoute et l'indulgence s'il vous plaît. Je vous remercie aussi pour vos partages, vos likes, relikes, surlikes, hashtag sacrée femme de chez elle.
Moi je ne pense pas du tout que ce soit une guerre entre les hommes et les femmes.
We want to end gender inequality.
Mais j'ai l'impression tout de même qu'elles sont moins résignées qu'elles ne l'étaient auparavant.
And to do this.
Métier d'homme, ça ne veut rien dire. Un métier d'homme, ce serait un métier qu'une femme ne peut pas faire. Il y en a vraiment peu.
We need everyone involved.
À bientôt, chez les femmes de chez moi.